Radio Prague, les informations.
Progrès dans la négociation sur l'installation du radar américain en Tchéquie. Le cabinet promet une importante aide financière à la région de Brdy. Projet de réforme du système des retraites en République tchèque. La négociation sur une éventuelle installation d'une station radar en République ont beaucoup progressé. C'est ce qu'ont constaté devant les journalistes le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères Tomáš Pojar et le diplomate américain John Rhodes. Il reste cependant quelques questions sur lesquelles les avis des deux parties diffèrent. Des 18 chapitres de l'accord que les deux parties sont en train de préparer, on en a déjà conclu 12. C'est à l'issue d'une rencontre avec les maires des communes de la région de Brdy en Bohême centrale que le gouvernement tchèque a décidé de créer une commission pour le développement de cette région. L'action sera composée de délégués du gouvernement, des communes de la région et de l'administration locale. Elle doit préparer le programme d'aide financière de plusieurs centaines de millions de couronnes. C'est dans une zone militaire de la région de Brdy que les États-Unis envisagent de construire une station radar très contestée par la population locale. Le ministre tchèque du Travail et des Affaires sociales, Petr Nečas, envisage de présenter au gouvernement le projet de loi sur la première étape de la réforme des retraites encore avant la fin de cette année. Avant de présenter la version définitive du projet, Petr Nečas aimerait cependant parvenir à un compromis avec l'opposition. Selon le vice-président du Parti social-démocrate tchèque, le projet de loi sur la réforme des finances publiques présenté au Sénat, il y a 11 modifications de caractère législatif et technique qui n'ont pas été soumises à la procédure régulière dans la Chambre des députés. Le vice-président du Parti social-démocrate Bohuslav Sobotka a souligné que le Sénat devrait maintenant renvoyer ces modifications à la Chambre des députés afin que celle-ci les soumette au vote. La compagnie Škoda Power de la ville de Plzeň en République tchèque a obtenu un contrat pour la livraison d'une turbine, d'un générateur et d'autres installations importantes pour la centrale thermique qui sera construite à Mejillones au Chili. La valeur du contrat atteint 560 millions de couronnes, quelque 20 millions d'euros. Météo. Ce mercredi fait de tous les Boris, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuagé à couvert et il pleut notamment sur l'est du pays. Les températures se situent entre 10 et 14 degrés. Jeudi, le temps en République tchèque sera couvert et il pleuvra. Les températures s'échelonneront de 14 à 18 degrés. Les météorologues ont lancé un avertissement. De mercredi à vendredi, les pluies intenses pourront lever le niveau des rivières et provoquer des inondations, notamment en Bohême du Sud et en Moravie. Il faut se préparer également à un vent très fort dont la vitesse peut atteindre sur l'est du pays une vitesse de 9 à 14 mètres secondes et avec des rafales 20 à 30 mètres secondes, soit 108 km à l'heure. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
C'est décidé, Prague veut accueillir les Jeux Olympiques d'été en 2016. La lettre de candidature a été signée mardi à la mairie de Prague. L'idée de construire des gratte-ciel sur la colline de Pankrát, presque en face de la sur laquelle est bâti le château de Prague, semble plaire au ministère de la Culture qui a donné son aval à ce projet. Les Pragois, quant à eux, sont en revanche nettement moins enchantés par cette perspective. Voilà les sujets que nous allons aborder dans cette émission. Nous vous expliquerons également pourquoi un camp de réfugiés a été édifié non loin du centre de la capitale. Coup de projecteur enfin sur une manifestation qui se déroulera d'ici peu à Paris et qui honorera le film et les cinéastes tchèques. C'est donc officiel, la capitale tchèque est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2016. Le maire de Prague, Pavel Bém, et le président du comité olympique tchèque, Melanie Rasek, ont signé la lettre de candidature, mercredi. Alexis Rosenzweig.
Depuis le temps qu'on en parlait, cette fois c'est fait. La lettre de candidature, rédigée en anglais, en tchèque et en français, est donc signée et en route vers le siège du Comité olympique international à Lausanne. Une candidature qui deviendra officielle une fois la réponse du CIO. Hop, on écoute Pavel Bém, le maire de Prague.
Olympiáda samozřejmě je obrovská výzva pro Prahu, pro celou Českou republiku.
L'Olympiade est bien sûr un énorme défi pour Prague et pour toute la République tchèque. Un défi qui touche notre fierté nationale, qui touche ce dont nous pouvons être fiers. Mais ce n'est pas seulement une question sportive, c'est une question profondément pragmatique et très très économique. Et je tiens à vous dire que pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2016, ou pour ceux d'après, nous savons exactement ce que nous faisons. Nous savons quelles sont les dépenses et celles sur lesquelles nous pouvons compter. Nous savons quels seront les bénéfices marketing et la valeur ajoutée que peuvent nous apporter l'organisation des Jeux Olympiques.
Et lors de la cérémonie officielle de ce mercredi, plusieurs athlètes étaient venus apporter leur soutien à la candidature de Prague, dont certains encore fatigués par le décalage horaire. C'était le cas de Roman Scheberle, revenu la veille d'Osaka au Japon avec un titre de champion du monde de décathlon. D'autres stars de l'athlétisme d'aujourd'hui étaient là, comme Barbora Jakova, elle aussi fraîchement médaillée d'or au javelot. Des stars qui ont fait l'histoire de l'athlétisme tchèque sont également venues. Dana Zatopkova, épouse d'Emil Zatopek, médaillée olympique au javelot aussi en 1952.
Moi, je ne serai plus là pour voir si ce rêve deviendra réalité. Je vais avoir 85 ans, donc je n'ai pas beaucoup d'espoir. J'en suis désolée, mais ce n'est pas grave. Je souhaite que cela arrive, parce que même si nous sommes une petite nation, nous avons relativement beaucoup de succès. Nous sommes quand même assez forts en sport. Évidemment, les gens ont d'autres soucis, notamment économiques, et les Jeux olympiques leur font peur. Mais si on obtenait l'organisation, je pense que la nation s'unirait comme un seul homme et que tout le monde s'y mettrait.
La liste définitive des villes candidates à l'organisation des Jeux Olympiques de 2016 sera bouclée le 13 septembre prochain et la concurrence sera rude, très rude pour la petite capitale tchèque avec notamment Chicago, Tokyo, Madrid ou encore Doha et Bakou également en lice.
Le panorama de Prague pourrait définitivement changer avec cette décision. En effet, le ministère de la Culture vient de mettre fin à la procédure administrative concernant la construction de gratte-ciel sur la colline de Pankrác. Détail sur une affaire qui dure avec Anna Kubišta.
Oui, en effet, une affaire dont Radio Prague vous a d'ailleurs parlé à plus prise au cours de ces dernières années. Et ces derniers temps, il est fréquemment question d'architecture et de bâtiments qui, selon les personnes et selon les camps, doivent enrichir ou défigurer Prague. Il suffit de penser à la récente polémique autour de la future bibliothèque nationale ou de la possible construction de gratte-ciel dans le quartier de Holešovice. C'est le serveur internet Euro Online qui a lancé l'information ce lundi, faisant écho aux déclarations de la société ECM, le principal investisseur immobilier, qui a racheté une partie des terrains de la plaine de Pankrác dès le début des années 2000. Le ministère de la Culture a tranché. Le projet de bâtiment ne va pas à l'encontre des valeurs de la réserve historique de la ville de Prague, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Contre les promoteurs immobiliers qui veulent faire de ce quartier un petit Manhattan pragois, certaines associations citoyennes ont décidé de se battre, mais aussi un architecte d'origine croate qui se veut engagé, Vlado Milonic, co-auteur de la maison dansante à Prague avec Frank Gehry. Il s'était exprimé au micro de Radio Prague l'année dernière.
Ma position, c'était que pour Prague, c'est tout à fait tragique parce que Prague, c'est une ville de tours. Je ne veux pas que Prague, ça devienne une ville de gratte-ciel. À Shanghai, en Chine, qui a 20 millions d'habitants et 3 000 gratte-ciel, c'est complètement stupide de faire un export dans une ville tout à fait extraordinaire avec une identité tout à fait spéciale. À Prague, il y a une influence méditerranée des Italiens de période de baroque et en même temps une influence de Nord avec les Allemands, même les Français, ça veut dire cette mix fait une identité tout à fait spéciale.
En juin déjà, le ministère de la Culture avait stoppé la procédure administrative en attendant les conclusions de la commission de l'UNESCO. Celle-ci s'est réunie fin juin en Nouvelle-Zélande. D'après le président du comité tchèque de l'ICOMOS, le Conseil international des monuments et des sites, Josef Stultz, la commission de l'UNESCO aurait exprimé de graves inquiétudes quant au projet de gratte-ciel, premier pas avant une possible inscription sur la liste du patrimoine en péril. Le ministère de la Culture tchèque a pris note tout en précisant que la commission n'avait pas exprimé de refus catégorique pour autant. Avant-dernier rebondissement en date, la semaine dernière, la rédaction internet de l'hebdomadaire Tiden avait publié sur son site les déclarations du Premier ministre Mirek Topolánek lors d'une rencontre informelle. Il avait alors déclaré que Prague pourrait fort bien être rayée de la liste du patrimoine de l'UNESCO sans que cela ne lui porte préjudice, avant de rajouter que la ville pourrait même en tirer bénéfice. Des déclarations off que le Premier ministre a ensuite démenties par l'intermédiaire de son porte-parole. Celui-ci a précisé que Mirek Topolánek n'avait jamais envisagé de retirer Prague de la liste de l'UNESCO. Rappelons que s'il existe des sites classés sur la liste des monuments en péril, aucun pays ne s'est jamais retiré volontairement du club prestigieux de l'UNESCO.
Un camp de réfugiés, avec des tentes de réfugiés et sanitaires, a été monté mardi dans le centre de Prague, dans le cadre d'une exposition organisée par Médecins sans frontières pour sensibiliser l'opinion publique à la situation des personnes contraintes de fuir leur pays d'origine. Jarka Gisibulova s'y est rendue.
L'exposition intitulée « Un camp de réfugiés dans le cœur de la ville » permet aux visiteurs de vivre un instant la situation des réfugiés qui sont actuellement nombre de 33 millions dans le monde, selon le Comité pour les réfugiés et les immigrants. Irena Koskova, membre de Médecins sans frontières en République tchèque, qui vient de rentrer de deux missions au Niger et au Mozambique, nous y accompagne en expliquant comment cela se passe sur le terrain.
Alors ici, il y a des tentes où on habite. Ici, c'est un type de tente Sahara qu'on utilise dans le désert. Ici, c'est pour jusqu'à 20 personnes. Ça peut être plusieurs familles, parce que la plupart des réfugiés, ce sont les femmes. Parce que les hommes, ils ont été tués ou ils sont dans la guerre. Il y a des camps de réfugiés où on habite peut-être 10 années ou plus. Ici, c'est un centre nutritionnel pour le traitement de malnutrition des enfants. Ici, c'est la partie médicale. Quand des réfugiés rentrent dans le camp, ils doivent être vus par une infirmière ou un médecin. Après, on fait aussi la vaccination pour les enfants moins de 15 ans. On fait la vaccination pour la rougeole parce que c'est une maladie très contagieuse. Ça peut tuer beaucoup des enfants. Ici, de l'autre côté, c'est le traitement de choléra. Une maladie qui tue plus, ce sont les diarrhées et les infections respiratoires. Pour l'eau, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nécessités de l'eau. Alors, dans les premières journées, on essaye de donner 5 litres par personne et puis on donne jusqu'à 20 litres. Ici, c'est ma cuisine. Vous pouvez voir ici la portion pour un adulte. C'est 2100 kilocalories par jour. Alors, on distribue sel, sucre, maïs, huile, des haricots. On distribue d'abord chaque semaine et après c'est chaque mois.
Fondée en 1971 en France, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières possède depuis janvier 2007 un bureau permanent à Prague. 10 médecins tchèques sont en ce moment en mission en Colombie, au Libéria, au Tchad, au Soudan, en Éthiopie, au Mozambique et en Birmanie. L'objectif de MSF est de soigner, mais aussi de témoigner. Le docteur Andrzej Szymetka, membre de la présidence de Médecins sans frontières à Vienne et qui a pris part à cette mission, souligne qu'il est de plus en plus difficile d'acheminer l'aide aux réfugiés, non seulement parce que le manque de sécurité s'aggrave, mais aussi parce que l'aide humanitaire devient l'objet d'intérêts politiques et militaires. En outre, aucune protection n'est accordée aux personnes intérieurement déplacées, comme sont définies les personnes contraintes de quitter leur domicile tout en restant dans leur pays. Médecins sans frontières ne fait toutefois pas de distinction entre les différents types de réfugiés, souligne Andrzej Szymetka.
Každý člověk na útěku má právo na zajištění základních potřeb, mezi které patří.
Chaque personne en fuite a le droit à l'assurance de ses besoins fondamentaux, à savoir l'eau, la nourriture, l'abri, la sécurité et les soins médicaux.
A zejména poskytnutí základní zdravotnické péče.
L'exposition itinérante « Un camp de réfugiés dans le cœur de la ville » restera à Prague jusqu'à dimanche. Ensuite, elle se poursuivra à Berne, en Suisse, et cette année, elle sera encore à voir en Italie, à Autriche et aux États-Unis.
Prague va faire bientôt son cinéma à Paris. Plus précisément, c'est le jeune cinéma tchèque qui va se présenter au public parisien. Le mini-festival porte un joli nom, Famusez-vous. Plus de détails avec notre correspondant au téléphone de Paris, Jiří Slavíček.
La FEMIS et la FAMU, deux prestigieuses écoles de cinéma et de l'image, la première à Paris, la seconde à Prague, se donnent à nouveau la main cette fois-ci pour présenter ensemble au public parisien en deux après-midi et soirées du 14 au 15 septembre, non seulement des valeurs sûres, mais surtout tout un ensemble des œuvres du jeune cinéma tchèque, aussi bien dans la fiction que dans l'animation et dans la création documentaire. Tout dans une salle très sympathique du quartier artistique de Montmartre à Paris, au 6 rue Francoeur, pas loin de la mairie du 18e arrondissement. Si tout va bien, vendredi 14 septembre au soir, après la projection de son film déjà bien connu en France, Les Petites Marguerites, la soirée sera consacrée à la discussion sur le métier du cinéma avec sa réalisatrice Viera Kikilova. Samedi 15 septembre, on commencera un peu plus tôt, dès 16h30 jusqu'aux 20h, par la projection des films des étudiants de la FAMU, notamment du film Martha, tourné en 2006 et présenté par sa réalisatrice Marta Novakova. Cette soirée risque de se prolonger tard dans la nuit et cerise sur le gâteau. Tout le monde jure qu'on n'a pas exprès, mais le hasard a bien fait des choses. Les quatre réalisateurs présents sont des réalisatrices. De Paris pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
Pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak polet mém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není. Naschledanou, naschledanou.
Une chanson de Jiří Suchý à la fin de ce fait événement en République tchèque. Mais notre programme en français n'est pas encore terminé. Il se poursuit, comme tous les mercredis, avec un volet historique.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Le 23 août dernier est décédé Dušan Třeštík, historien spécialisé dans l'histoire politique, économique et culturelle de la Bohème et de l'Europe médiévale du 6e au 12e siècle. Voici donc le portrait de cet historien disparu qui avait exprimé ses opinions sur l'histoire de la nation tchèque lors d'un dernier entretien pour la radio tchèque. Le docteur Dušan Třeštík a suivi ses études d'histoire et d'archivistique à Prague, mais aussi en France et en Allemagne. De 1958 jusqu'à sa mort, il a travaillé à l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences. Auteur d'une série d'ouvrages, de monographies et d'études, il n'a pas pu enseigner à l'université. Ce n'est qu'après 1989 qu'il a pu participer à la vie publique en tant qu'intellectuel et auteur indépendant. Il était membre du Centre d'études médiévales et du Conseil
prix scientifique de l'Académie des sciences. Depuis 1997, il travaillait sur une série de monographies consacrées à l'histoire médiévale de la Bohême et de l'Europe centrale. Les plus connus sont les commencements des Přemyslites, les mythes de la tribu des Tchèques et les rois et les princes de la couronne de Bohême. Sa spécialisation de médiéviste ne l'empêchait pas de s'exprimer sur des sujets politiques et culturels d'actualité. Ses observations établissaient des parallèles entre le passé et le présent. Dusan Třeštík aimait réfuter les mythes enracinés dans l'histoire. Certains l'appelaient l'historien postmoderne. Comment percevait-il cette caractéristique? Il a expliqué lui-même à la radio tchèque.
Uvědomuji se, že žije v době, která je...
Je me rends compte que je vis à une période postérieure à l'ère moderne qui couvre, disons, les 19e, 20e siècles, mais qui commence en fait beaucoup plus tôt, au 16e siècle déjà, et à laquelle sont propres les 19e, 20e siècles en tant qu'époque porteuse d'une certaine idée, l'idée du progrès, basée sur un État national. Une idée qui appartient désormais au passé. Les certitudes liées à cette époque-là, les certitudes de Jules Verne par exemple, sont révolues. Nous sommes donc à la recherche de nouvelles certitudes, et ceux qui les recherchent, qui doutent des vérités éternelles, on les appelle les postmodernistes. Une injure.
Un des mérites de Dusan Třeštík était de rendre la science historique populaire et accessible. Une faculté qui lui a d'ailleurs valu de recevoir le prix Wojciech Napřestek pour la vulgarisation de la science. Son credo était le suivant, l'historien a l'obligation d'écrire des livres accessibles au grand public. L'historien ne peut exister sans son public. L'histoire qui n'est pas faite pour quelqu'un n'existe pas. Une stricte objectivité de l'histoire est impossible. L'histoire ne peut jamais être objective, elle doit toujours avoir son destinataire. L'histoire, selon Dusan Třeštík, c'est la narration des histoires. À quoi ressemblerait donc l'histoire de la nation tchèque? Il en a aussi parlé à la radio.
To bylo by to o našem příběhu jako série transformací. První by bylo přijetí křesťanství a vznik státu.
Ce serait une histoire composée d'une série de transformations. La première a été l'adoption du christianisme et la naissance de l'État, l'un étant inséparable de l'autre. Cela a été une chose formidable, une révolution sociale, des idées, et en même temps, une ouverture au courant venant de l'Occident. La deuxième transformation, qui a eu lieu au XIIIe siècle, reste toujours sous-estimée. C'est alors que le pays s'est modernisé, que les villes ont été fondées, et les grandes surfaces de terre colonisées. La vie et la société ont complètement changé, et cette transformation a culminé avec l'ère de Charles IV au début du XIVe siècle. La troisième transformation a été l'industrialisation de la Bohême au XIXe siècle. Elle a marqué un changement de base pour la vie de la population. Le XIXe siècle est la période dans laquelle la société actuelle prend ses racines. L'anamnèse familiale de chacun de nous remonte au XIXe siècle, lorsque nos arrière-grands-pères venus de la campagne sont arrivés dans les régions industrielles pour leur carrière. Certains ont payé cher les risques, mais la plupart ont réussi. Et ce sont ces carrières, chèrement payées par le sang et la sueur, qui font le code génétique de la nation tchèque.
Dans son entretien à la radio tchèque, l'historien Dusan Třeštík a également dessiné la différence qui existe dans la perception et l'autodéfinition des peuples d'Europe et d'Amérique du Nord.
No, především, my tady v Evropě žijeme v dějinách. My se definujeme dějinami na rozdíl od Ameriky, která žije...
En premier lieu, nous, ici, en Europe, nous vivons avec l'histoire. C'est l'histoire qui nous définit, à l'opposé de l'Amérique qui vit avec le futur. L'Amérique n'a pas sa propre histoire. C'est cela la différence essentielle. Nous, quand nous nous interrogeons sur notre identité, nous nous tournons vers l'histoire. C'est valable pour l'Europe tout entière, partout. Bien évidemment, l'histoire est une accumulation énorme d'artefacts créés par les générations précédentes. Parmi ces artefacts, il y a notamment tout ce qui a été créé par l'État national tchèque au XIXe siècle. Le théâtre national, le musée national, le panthéon au cimetière de Vyšehrad. Voilà les créations de l'État tchèque, qui bien qu'il n'existait pas encore au XIXe siècle, a de fait existé dans ses œuvres créées à son image.
Dušan Třeštík est aussi l'auteur de l'ouvrage Saint Venceslas, patron des Tchèques, ayant marqué d'après lui non seulement le début de l'histoire de l'État tchèque, mais aussi le début de l'idée de cet État et de sa continuité. À propos de la Première République tchécoslovaque, il a écrit qu'elle était parmi les États européens aux prises avec le nationalisme, le communisme, les renversements et même les litiges locaux, une démocratie stable, et cela grâce à son président Tomáš Garrigue Masaryk. La dernière monographie de Dušan Třeštík, intitulée « La Bohème » au Xe siècle, est restée inachevée. Il est mort à l'âge de 74 ans.
Merci d'avoir suivi les chapitres de l'histoire. Merci d'avoir suivi toute notre émission. Merci à Irena pour la réalisation technique. Au revoir et à demain.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.